Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
C'est l'attaque la plus meurtrière commise par l'État islamique sur le continent européen. Vendredi dernier, l'attentat du Crocus City Hall de Moscou a fait 137 morts et 182 blessés selon le dernier bilan officiel. Un choc pour la Russie qui a des répercussions jusque chez nous, en France. Quelles sont les retombées de cette attaque terroriste et comment Vladimir Poutine tente-t-il de retourner ce drame à son avantage? Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti! Un raz-de-marée de fleurs et de larmes. Depuis samedi matin, des milliers de Russes se pressent devant le Crocus City Hall, la salle de concert située en banlieue de Moscou où 137 personnes ont perdu la vie vendredi soir. Un scénario qui rappelle forcément le Bataclan, tout comme la revendication qui a suivi le drame puisque c'est l'État islamique qui aurait coordonné l'attaque. Depuis vendredi, les choses sont allées très vite. La police russe a interpellé 11 personnes, dont les 4 terroristes présumés qui ont ouvert le feu dans la salle. On a pu voir leurs visages dans les médias. Plusieurs d'entre eux ont visiblement été tabassés. On parle même de torture par décharge électrique, mais les autorités démentent pour le moment. Les 4 assaillants seraient originaires du Tadjikistan, un ancien pays du bloc soviétique, mais ils vivaient déjà en Russie avant de passer à l'action. Dans les médias russes, cette arrestation express est largement mise en scène avec les accusés exposés aux caméras dans des box en verre, un moyen de prouver la fermeté de Vladimir Poutine qui fêtait encore sa réélection triomphale avant cette attaque inattendue, preuve que malgré la surveillance des Russes, la sécurité n'est pas totale. Ce désaveu, les autorités ont d'abord tenté de le masquer en désignant l'Ukraine comme commanditaire de l'attaque, une manière de rappeler qui est l'ennemi. D'ailleurs, le Kremlin refuse pour le moment de commenter la revanche de l'État islamique. Et pourtant, la Russie est bel et bien ciblée par les djihadistes, en l'occurrence par le groupe État islamique du Khorasan, une région à cheval entre l'Afghanistan et le Pakistan. Cette faction de Daesh, réputée pour être la plus violente et la plus active à l'international, elle a déjà mené des attaques meurtrières à Kaboul ou encore en Iran en décembre dernier et considère la Russie comme une tueuse de musulmans, notamment lors de l'invasion de l'Afghanistan dans les années 80 et lors de la guerre de Tchétchénie. En France aussi, ce groupe islamiste est bien connu. Il serait derrière plusieurs projets d'attentats déjoués ces dernières années chez nous. C'est ce qui a poussé dimanche le gouvernement à repasser le plan Vigipirate à son niveau maximal urgence attentat. Il devrait logiquement être maintenu jusqu'à la fin des JO cet été. L'actu aujourd'hui, c'est aussi la suite de l'opération XXL contre le trafic de drogue. Après la descente massive de policiers à Marseille la semaine dernière, cette fois c'est Lille, Dijon, Lyon et la région parisienne qui ont été ciblées ce lundi. D'après le bilan du ministère de l'Intérieur, 187 personnes ont été interpellées au total. La menace terroriste, on en reparle avec cette nouvelle vague de fausses alertes dans les collèges et lycées. Au total, 130 établissements ont fait l'objet de menaces d'attentats ces derniers jours. D'abord en région parisienne, puis à Strasbourg, dans les Hauts-de-France et finalement en Meurthe-et-Moselle ce lundi matin. À chaque fois, c'est le système de messagerie des espaces numériques de travail qui a été piraté. En Ile-de-France, 26 000 élèves ont reçu un message de menace accompagné d'une vidéo de décapitation. Pour le moment, aucun responsable n'a été identifié ou interpellé. À l'international, de nouveau, c'est une première pour le Conseil de sécurité de l'ONU. Après 5 mois de guerre au Proche-Orient, ce lundi, les 15 pays membres ont voté une résolution pour réclamer un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Les États-Unis, qui avaient toujours mis leur veto pour mener leurs propres négociations, se sont abstenus cette fois, ce qui a permis d'adopter le texte à 14 voix pour. En plus d'un arrêt des combats, la résolution réclame la levée de tous les obstacles au passage de l'aide humanitaire. C'est la première fois que le Conseil des Nations Unies s'oppose officiellement à l'attaque israélienne sur la bande de Gaza. Les plus jeunes comme les plus âgés, personne n'est à l'abri des maltraitances. Double opération de communication pour le gouvernement ce lundi. Il lance simultanément deux plans pour deux profils de victimes. Le premier concerne 9300 établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Ils vont faire l'objet de contrôles surprises pour vérifier les conditions de vie et la prise en charge des patients. Même chose dans les EHPAD, dont la moitié n'a pas encore vu passer d'inspecteur. Le second plan, lui, va se concentrer sur les micro-crèches. Elles sont au cœur de plusieurs scandales révélés ces derniers mois avec des enfants oubliés sur les toilettes, privées de sieste ou laissées en pleurs jusqu'à l'épuisement. Les crèches privées sont particulièrement ciblées puisqu'elles ne répondent pas aux mêmes normes que des crèches classiques, notamment sur la formation du personnel. On reparle des lycéens qui, en plus de subir des menaces, ont autre chose en tête en ce moment. Trouver un stage pour l'année de seconde. Et oui, d'ici le mois de juin, ils devront passer deux semaines sur le terrain, soit dans une entreprise, soit dans une association qui voudra bien d'eux. Et pour leur donner un petit coup de pouce, eh bien, c'est ce lundi que l'espace des offres de stage ouvre sur la plateforme Un jeune, une solution. On y trouve des annonces postées ces derniers jours par les structures qui veulent bien se prêter au jeu. A priori, il faudra être un peu patient puisque le site n'a pas l'air de fonctionner ce lundi après-midi, sûrement à cause d'un trop grand nombre de connexions simultanées. Au total, 500 000 de lycéens doivent trouver un stage d'ici cet été. 3,87 millions d'euros, c'est la très belle somme récoltée ce week-end lors de la 30e édition du SIDAction. Les organisateurs avaient un peu peur de l'effet de l'inflation sur la générosité des Français, mais le montant est quasiment similaire à celui de l'an dernier. Tout cet argent va maintenant servir à financer la recherche contre le VIH et va aider à la prise en charge des malades. D'ailleurs, la cagnotte peut encore grossir puisque la collecte est ouverte jusqu'au 12 avril. Ça se passe sur sidaction.org ou par téléphone en appelant gratuitement le 110. On termine avec un petit rappel. Le printemps du cinéma a débuté ce dimanche et se poursuit jusqu'à ce mardi soir. Toutes les séances sont seulement à 5 euros dans les salles participantes. Il y en a un peu plus de 6 000 au total partout en France. L'an dernier, près de 2,5 millions de spectateurs en avaient profité. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.
Le podcast d'actu que vous venez d'écouter fait partie du label Chose à savoir, qui produit plus de 30 podcasts quotidiens. Parmi eux, j'anime le podcast de Culture Générale, dans lequel je réponds tous les jours à une question étonnante, comme par exemple, qui a décidé du sens de rotation des aiguilles d'une montre? Ou pourquoi les Japonais raffolent-ils tant des Kit Kat? Aujourd'hui, et l'épisode est déjà dispo, je vous explique pourquoi il y a presque toujours un miroir dans les ascenseurs. Donc si vous voulez mettre fin à ce mystère, retrouvez-moi, je vous dis tout à ce sujet en moins de 2 minutes. Pour rappel, mon podcast est « Chose à savoir », chose au pluriel. Vous devriez facilement le trouver dans votre appli de podcast. À très vite.